Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de Radio Présence. Et cette semaine, nous allons commencer une série spéciale qui va se décliner tout au long de l'année. Une série consacrée au Concile Vatican II, dont nous célébrons les 60 ans cette année, en 2023. Aujourd'hui, le premier module consiste un petit peu à décortiquer ce qu'est un concile, le contexte général dans lequel ce Concile Vatican II a vu le jour. La première question, Monseigneur Jean-Marc Mika, elle est toute simple. Au fond, un concile, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle?
Eh bien, je commencerai par dire que c'est d'abord un événement spirituel et pas une assemblée générale d'un conseil d'administration, d'une institution, d'un organisme ou d'une entreprise. C'est d'abord un événement spirituel qui manifeste le magistère de l'Église exercé par l'ensemble des évêques en communion avec le premier parmi eux, successeur de Pierre comme évêque de Rome, le pape. Techniquement, c'est ça. Le concile est convoqué par le pape, qui va ensuite en publier les décisions. La mission du concile, c'est de définir la doctrine officielle de toute l'Église en matière de foi, et on disait autrefois en matière de mœurs, en matière de morale, en matière de comportement chrétien. Il y a la foi, ce que l'on croit, et puis, en conséquence de ce que l'on croit, une manière d'être et d'agir.
Quels sont les conciles qui ont marqué l'Église avant ce concile Vatican II, qui va être un tournant, on le sait, proche de nous?
Eh bien, il y en a un que tout le monde peut avoir sous les yeux facilement. C'est le tout premier, dit le concile de Jérusalem, dont témoigne le livre des Actes des Apôtres, et qui, dans la manière dont les apôtres vont devoir ensemble répondre à une question qui n'existait pas dans l'enseignement de Jésus, Jésus n'a pas donné de consigne précise sur cette question, et c'est aux apôtres d'inventer la bonne réponse pour être fidèles à Jésus. Et la manière dont ils s'y prennent va devenir normative sur la manière de s'y prendre pour tous les autres conciles, jusqu'à Vatican II. Ce concile doit décider, cette première décision des apôtres ensemble, doit décider d'une grave question. Pour permettre aux païens de devenir chrétiens, faut-il d'abord leur imposer de devenir juifs? Ben, il n'y a pas de réponse dans l'enseignement de Jésus et ils doivent inventer la réponse. Voilà.
Donc,
c'est le premier concile.
Il n'y a pas un élément déclencheur, mais
Si, il y a une crise, bien sûr, il y a une crise, c'est souvent comme ça les conciles. Il y a un élément déclencheur qui formule une question nouvelle, une problématique nouvelle, et ce n'est pas en fouillant dans l'enseignement de Jésus qu'on trouve la réponse. Il faut l'inventer. Pour l'inventer, il faut se mettre en prière, il faut se mettre ensemble, il faut apporter les arguments des uns des autres, et puis prendre une décision et se donner les moyens d'être assuré que la décision prise, elle est réellement ce que Dieu veut que nous décidions et qu'elle exprime réellement une fidélité à l'enseignement de Jésus et donc va peu à peu enrichir ce qu'on appelle la tradition, avec un grand T, qui s'inscrit dans l'enseignement de Jésus au fil de l'histoire. Voilà.
Donc ça, c'était vrai pour le premier concile
donc,
et pour tous
le premier
les
concile,
autres.
C'est vrai pour tous les autres. Chaque fois, il y a des circonstances qui provoquent la nécessité de réunir, alors c'est le pape chaque fois, de réunir tous les évêques et dire, ben voilà, il y a telle question, telle hérésie, tel problème, telle contestation, et il faut arbitrer entre telle et telle position pour déterminer quelle est la réponse officielle dans laquelle l'Église s'engage, prétendant que cette réponse est ce que Dieu veut réellement en fidélité à l'enseignement du Christ.
Au fond, l'acteur principal d'un concile, c'est l'Esprit Saint.
Ah, complètement. Il vaut mieux, d'ailleurs. Alors donc, ça, c'était le premier concile, dit de Jérusalem. Premier, qui donne un peu la matrice des suivants. Après, il y a quatre conciles absolument déterminants dans l'histoire de l'Église, au 4e et 5e siècle. Les conciles, alors les noms vont évoquer des choses, pour tout le monde, de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine. Nom des villes où ces conciles se sont tenus, ces conciles vont fixer les grands éléments de la foi chrétienne à propos du Christ, de sa double nature humaine et divine, unie entre elles en une personne unique. Alors tout ça, ça va être un gros travail de réflexion, de dispute aussi. C'est comme ça dans un concile. Il y a des
camps, c'est pour ça qu'on fait un concile,
et des positions
d'ailleurs
qui s'affrontent, tout ça. Ouais. Puis au final, il y a quelque chose qui va émerger de manière quasi unanime. Puis le pape va proclamer que désormais, c'est comme ça. Et ça va façonner la foi de l'Église. Ces quatre premiers conciles s'intéressent aussi à la doctrine de l'Esprit-Saint, puis de la Trinité. Tout ça se tient. Au passage, c'est là que Marie est proclamée mère de Dieu au concile d'Éphèse. Ces conciles doivent, et c'est ça qui est remarquable, je trouve, et génial aussi pour nous, et jusqu'à aujourd'hui, hein, y compris pour un curé de paroisse avec son EAP, quand il faut décider d'une réponse à donner à une question qui se pose. C'est le même processus. Il faut inventer des concepts, inventer des mots, pour formuler la foi commune des chrétiens reçue des apôtres. Voilà, c'est un processus, je le disais en commençant, à la fois spirituel, et d'abord spirituel, mais aussi intellectuel, hein, très émouvant, je trouve, vraiment, hein, qui consiste à inventer du neuf pour rester fidèle à la tradition des apôtres.
Et c'est ça qui fait que la tradition perdure, et qu'en même temps, Dieu nous fait confiance, puisqu'il confie aussi à son peuple la vie, la suite de l'Église.
Exactement, exactement. Et donc, d'en prendre conscience, ça doit à la fois nous voilà, il faut en avoir conscience pour être extrêmement humble devant cette confiance que Dieu nous fait, mais aussi audacieux pour assumer le fait qu'il est possible d'arriver à discerner ce que Dieu veut vraiment et à déclarer que c'est ça la vérité de l'Évangile, quoi.
Alors vous avez dit que l'élément déclencheur est souvent une crise ou une question grave ou très importante. Pour l'élément déclencheur, la crise qui a déclenché ou le besoin qui a déclenché le Concile Vatican II, quel était le contexte ?
Alors, juste avant de vous répondre, il y a d'autres conciles qui ont été extrêmement marquants dans l'histoire de l'Église, mais vous allez voir. Au XIe siècle, il y a une très grave séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, voilà, qui coïncide peu ou prou avec la séparation politique de l'Empire romain, hein, d'Occident et d'Orient, évidemment quelques siècles plus tôt. Mais voilà, les chrétiens, une fois que l'Empire romain a éclaté, ont évolué aussi de manière séparée. Puis il y a eu le sac de Constantinople, les croisades et des tas d'autres affaires comme ça. Bref, il y a eu un schisme très grave entre l'Orient et l'Occident en 1054. Et des conciles ensuite vont nous marquer, nous, chrétiens d'Occident. Alors, les conciles remarquables avant Vatican II pour nous, c'est d'abord le 4e concile du Latran en 1215, qui, pour notre région, est important parce que c'est celui qui a condamné la doctrine des cathares. Puis il y a le grand concile de Trente, qui va se dérouler sur une vingtaine d'années, de 1545 à 1563, dans la ville de Trente, en plusieurs sessions. Il faut que tous les évêques de la chrétienté occidentale se déplacent à Trente, ils séjournent, etc. C'est le concile qui est convoqué pour réagir à la réforme protestante et au schisme d'Occident, ce qu'on appelle le schisme d'Occident. C'est un concile qui va réformer profondément l'Église et son fonctionnement, et centrer ce fonctionnement très fortement sur les prêtres, fixer le nombre et la nature des sacrements, renforcer la place du pape, parce qu'il faut réagir aux protestants qui mettent en critique et contestation un peu tous ces éléments. Bon. Puis ensuite, il y a eu le concile Vatican I qui se proposait d'être un concile de réforme moderne pour l'Église, mais qui a été interrompu par la guerre avec l'Allemagne et la Prusse en 1870. Et enfin, le concile Vatican II, 1962-1965, qui se proposait de reprendre l'ordre du jour interrompu par Vatican I, et puis qui en réalité a fait une œuvre tout à fait originale et nouvelle.
Et inattendue
déjà dans son annonce, quand le pape Jean XXIII en 59, précisément le 25 janvier 59, à la fin de la messe de clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape Jean XXIII annonce aux cardinaux médusés qui n'avaient rien vu venir qu'il va convoquer un synode pour le diocèse de Rome et un concile pour l'Église universelle. Alors, et il va assigner à ce concile une mission, c'est celle de reconnecter l'Église avec la société moderne.
Alors bien sûr, nous n'y étions pas, mais est-ce qu'on a des traces écrites, des mémoires qui nous disent comment à ce moment-là ils ont réagi ? Ils ne s'y attendaient pas, mais est-ce que c'était un soulagement en se disant « enfin on en a besoin » ou est-ce que c'était un raz-de-marée, une inquiétude ? Comment à ce moment-là l'Église a réagi ?
Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de craintes d'un côté et beaucoup d'espoir de l'autre. Alors trop de craintes d'un côté, rassuré ensuite, et trop d'espoir de l'autre, déçu ensuite. Voilà. Mais ça, c'est classique. C'est souvent comme ça. Actuellement, l'Église, on est dans un processus synodal voulu par le pape François, synode sur la synodalité. On voit bien que les consultations qui sont faites dans les diocèses, dans les différentes nations et les comptes rendus qui remontent, expriment énormément d'attentes qui nécessairement seront partiellement déçues, en tout cas. Bon, mais voilà, même chose. L'annonce du Concile a effrayé certains, a rassuré ou donné, éveillé de l'enthousiasme chez d'autres. C'est comme ça.
On ne sait jamais pour combien de temps on part. Un concile démarre, on ne sait jamais combien de temps il va durer.
Au début, il était prévu qu'il soit plus court que ce qu'il a été. En réalité, il a fallu 4 sessions annuelles de plusieurs mois, l'automne chaque fois. Et entre chaque session, des allers-retours entre les travaux faits à Rome et puis le terrain de l'Église catholique. Mmh. Les travaux de Rome étaient soumis à des comités d'experts, de théologiens, pays par pays, évêque par évêque ou groupe d'évêques par groupe d'évêques. Et donc, chacun revenait avec des amendements à Rome l'année suivante et pour finir par aboutir à des textes définitifs et voter. Donc, il a fallu 4 sessions pour balayer l'ensemble des sujets qui avaient été déterminés, non pas par l'ordre du jour préparé à l'avant le Concile, parce que cet ordre du jour a été balayé dès la première rencontre de la première session où l'archevêque de Lille s'est levé pour dire « Mais attendez, donnez-nous du temps avant d'approuver l'ordre du jour pour qu'on se connaisse, qu'on puisse parler un peu. » Et cette intervention a été tout à fait déterminante et bouleversante pour le Concile parce que tous les schémas et ordres du jour préparés en amont par des commissions que le pape avait mises en place à Rome ont été balayés par les évêques du monde entier quand ils se sont retrouvés tous ensemble à Saint-Pierre de Rome et ils ont élaboré un nouvel ordre du jour qui a bouleversé complètement ce qui était prévu.
Et c'est
là qu'on voit l'intervention de l'Esprit-Saint.
Oui. Merci beaucoup, Mgr Jean-Marc Mika. Ce sujet du Concile Vatican II, c'est un sujet dont on va parler un petit peu tout au long de l'année, chaque mois où nous nous arrêterons sur un point particulier de ce Concile Vatican II pour en décortiquer le sens et puis ce à quoi il a abouti. Notamment, nous nous plongerons dans tous les textes qui ont abouti à ce grand concile. Merci beaucoup, Mgr Jean-Marc Mika.
Merci, très bonne semaine à vous.